42. Trévis sourit tranquillement pour lui-même. C'était un sourire intérieur car le pli de ses lèvres demeura immobile. Lorsqu'il avait travaillé sur l'ordinateur pour trouver l'étoile correspondant éventuellement au premier ensemble de coordonnées, Pellerat, comme Joie, l'avait observé avec attention, lui avait posé des questions. À présent, ils demeuraient dans leur cabine et dormaient, ou à tout le moins se reposaient, s'en remettant entièrement à Trévis. En un sens, c'était flatteur, car il lui semblait qu'ils avaient enfin admis le fait qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et n'avaient besoin ni de supervision ni d'encouragement. En l'occurrence, Trévis avait, par ce premier épisode, acquis assez d'expérience pour se fier plus complètement à l'ordinateur et sentir qu'il avait besoin de moins de surveillance à défaut d'aucune. Une autre étoile apparut, lumineuse et non répertoriée sur la carte galactique. Cette seconde étoile était plus brillante que celle autour de laquelle orbitait Aurora, ce qui rendait d'autant plus significatif qu'elle ne fut pas archivée dans l'ordinateur. Les bizarreries de la tradition antique stupéfiaient Trévis. Des siècles entiers pouvaient aussi bien se télescoper ou disparaître entièrement de la conscience collective. Des civilisations entières s'évanouirent dans l'oubli. Et pourtant, issus des brumes de ces siècles rescapés de ces civilisations, deux ou trois points de détail demeuraient parfois dans la mémoire, intacts, telles ses coordonnées. Il s'en était ouvert à Pellerat quelque temps auparavant, et ce dernier lui avait aussitôt répondu que c'était précisément cela qui rendait si gratifiante l'étude des mythes et des sciences. L'astuce, avait expliqué Pellerat, c'est d'établir ou de décider quel composant particulier d'une légende représente une vérité sous-jacente précise. Ce n'est pas aisé, et divers mythologues seront susceptibles de sélectionner des composants différents, fonction, en général, de ce qui se trouvera confirmer leurs interprétations personnelles. En tout cas, l'étoile correspondait pile avec les coordonnées de Deniador, une fois celle-ci rectifiée par rapport à la dérive temporelle. Dès lors, Trévis était prêt à parier une somme considérable que la troisième étoile allait se trouver également à sa place. Et si tel était bien le cas, il était prêt à admettre l'exactitude du reste de la légende qui établissait l'existence au total de 50 mondes interdits, malgré ce douteux chiffre rond, et tout aussi prêt à s'interroger sur la position des 47 autres. Une planète habitable, un monde interdit, orbitait autour de l'étoile. Et cette fois, sa présence ne causa pas chez Trévis le moindre frisson de surprise. Il avait eu l'absolue certitude de la trouver là. Il plaça l'étoile lointaine en orbite lente autour de l'astre. La couche nuageuse était assez dispersée pour autoriser une vue passable de la surface depuis l'espace. C'était une planète océanique comme l'étaient presque tous les mondes habitables. Il y avait un océan tropical ininterrompu, ainsi que deux océans polaires. Sur un hémisphère, aux latitudes tempérées, un continent plus ou moins serpentiforme encerclait la planète, avec de chaque côté des baies parfois prolongées par un isthme étroit. Sur l'autre hémisphère, la masse continentale était séparée en trois parties, dont chacune était plus épaisse dans la direction nord-sud que le continent de l'hémisphère opposé. Trévis aurait bien voulu en savoir suffisamment en climatologie pour être en mesure, partant de ces indices, de prédire températures et saisons. Un instant, il caressa l'idée de faire travailler l'ordinateur sur la question. Le problème restait que le climat n'était pas le point crucial. Ce qui était bien plus important, une fois encore, c'était que l'ordinateur ne détectait aucune radiation qui fût d'origine technologique. Ce que son télescope lui disait, c'était que la planète n'était pas mitée et qu'il n'y avait aucune trace de désert. Les terres défilaient sous eux, avec leurs diverses teintes de vert, mais on ne voyait nulle trace de zone urbaine sur la face éclairée. Aucune lumière sur la face obscure. Était-ce encore une planète où grouillaient toutes les espèces, sauf l'espèce humaine? Il frappa à la porte de l'autre cabine. « Joie !» chuchota-t-il assez fort. Il frappa de nouveau. On entendit un froissement, puis la voix de Joie.
« Oui. »«
Pourriez-vous venir ?»« J'ai besoin de votre aide. »
« Si vous attendez un petit instant, le temps que je sois présentable. »
Quand elle apparut enfin, elle était plus présentable que jamais. Cette obligation d'attendre avait toutefois provoqué chez Trévise un soupçon d'irritation, car son apparence était bien le cadet de ses soucis. Mais enfin, ils étaient amis à présent, et il réfréna son irritation. Elle lui dit, avec un sourire et sur un ton parfaitement aimable,
« Que puis-je pour vous, Trévise ?»
Trévise indiqua l'écran du moniteur. « Comme vous pouvez le constater, nous survolons la surface de ce qui ressemble à une planète en parfaite santé, avec des masses continentales dotées d'une couverture végétale fort dense. Pas de lumière nocturne toutefois, et aucun rayonnement d'origine technologique. Je vous demande d'écouter et de me dire s'il existe une quelconque vie animale. » Il y a un endroit où j'ai cru voir des troupeaux, mais je ne suis pas sûr. On voit parfois ce qu'on veut désespérément voir.
Joie écouta.
En tout cas, une expression curieusement attentive se peignit sur ses traits. Elle dit enfin
« Oh oui, riche en vie animale. »
« Mammifère ? » ?»«
Sans doute. »
« Humaine ?» Cette fois, elle parut se concentrer encore plus. Une bonne minute s'écoula. Une autre encore. Enfin, elle se détendit.
« Je ne peux pas encore dire au juste. De temps à autre, il m'a semblé déceler une bouffée d'intelligence suffisamment intense pour être considérée comme humaine. Mais elle était si faible, si rare, que moi aussi je n'ai peut-être fait que percevoir ce que je voulais désespérément détecter. Vous savez,
elle se tut, songeuse, et Trévise la harcela avec un
« Eh bien, le fait est,
reprit-elle,
qu'il me semble détecter quelque chose d'autre, une chose qui ne m'est pas familière. Mais je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir en dehors de… »
Son visage se figea de nouveau, comme elle se remettait à l'écoute avec un surcroît d'intensité.
« Eh bien !»
s'impatienta de nouveau Trévise. Elle se détendit.
« Je ne vois pas de quoi il pourrait s'agir, sinon de robots. »«
De robots ?»«
Oui. » »« Et si je les détecte, je devrais… » sans doute être en mesure de déceler également des hommes, mais non.
Des robots, répéta Trévise en fronçant les sourcils.
Oui,
dit Joie,
et je dirais même en grand nombre.